Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon, Maïder Gérard, Corentin Mansois, réalisée par Rafik Zénine et mise en onde ce matin par Morgane Danan. Deuxième temps de notre semaine consacrée aux épidémies. Hier, c'est la résurgence de la rougeole causée par les méfiances antivaccinales qui nous occupait. Aujourd'hui, place au virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, qui est à l'origine de la plus grande pandémie connue depuis la fin du 19e siècle. Alors, 36 ans après sa découverte, le virus est-il enfin sous contrôle? C'est la question qu'on se pose ce matin dans Culture Monde.
Nous avons certainement réduit la mortalité, mais nous continuons à avoir des infections nouvelles un peu partout, et particulièrement au sein des communautés laissées pour compte.
Tu vas faire les tests, en même temps tu prends ton traitement, parce que tu ne sais pas si ton partenaire est séropositif ou pas. Ok?
On a brisé peut-être la colonne vertébrale de la maladie. Nous avons plus de personnes sous traitement que de personnes qui attendent le traitement.
La fin du sida est possible. Hein? De ma petite chaise assise ici, je vois la fin du sida. Mais j'ai besoin de plus de moyens. J'ai besoin de plus d'engagement politique.
Et c'est pas le moment de perdre ce combat. Il y a une solidarité unique dans ce combat. La société civile, les États se sont réunis pour faire en sorte qu'on brise la conspiration du silence.
À l'instant, la voix de Michel Sidibé, le directeur exécutif d'ONU-SIDA. D'après les statistiques mondiales, justement, d'ONU-SIDA, en 2017, 36,9 millions de personnes vivaient avec le VIH. En 2017, 75% d'entre elles savent qu'elles sont atteintes. 3 personnes sur 5 vivant avec reçoivent un traitement antirétroviral et seulement 47% ont une charge indétectable du VIH. Objectif 90. Voilà le nom donné à cette ambition fixée par l'OMS destinée à mettre un terme à l'épidémie de sida à l'horizon 2020. 90% des personnes séropositives doivent savoir qu'elles le sont. 90% des personnes infectées doivent recevoir un traitement rétroviral de long cours. Et 90% de ces personnes soignées doivent voir leur charge virale durablement réduite ou supprimée pour ne plus risquer de contaminer quiconque. À moins d'un an de l'échéance, où en est-on? Et en particulier, le continent africain qui compte 26 millions de personnes concernées. En Afrique, seulement 40 à 66% des personnes infectées reçoivent un traitement antiviral et l'épidémie continue de se propager. Puisque le continent est le théâtre des 2/3 des nouvelles infections. Alors comment comprendre ce retard? Est-ce que c'est une question de moyens, de volonté politique? Les acteurs internationaux comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et les États africains doivent-ils repenser leur coopération pour en finir avec l'épidémie? Ou est-ce au tour des communautés locales de prendre le relais de la lutte? Et comment? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité Fred Eboko. Bonjour.
Bonjour Florian Delorme, très heureux de vous retrouver.
Heureux également de vous avoir ce matin avec nous. Vous êtes politiste et directeur de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, et puis auteur d'un ouvrage, Repenser l'action publique en Afrique, du sida à l'analyse de la globalisation des politiques publiques, qui était paru chez Cartala. Fred Eboko, en Afrique, on est encore très très loin des objectifs, de l'objectif des 3,90 défini en 2014. Quand on regarde le dernier rapport d'ONU-SIDA, seuls 66% des personnes vivant avec le VIH ont eu accès à un traitement antirétroviral en Afrique de l'Est et australe en 2017, et le taux chute même à 40% quand on regarde l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. On voit bien là que ça sera très difficile pour le continent africain d'atteindre les objectifs 90. On ne voit pas comment est-ce qu'on peut y arriver.
Oui, alors à l'horizon 2020, c'est vrai que ces objectifs paraissent assez irréalisable, mais il faut aussi avoir le petit recul historique qui nous amène à repenser l'histoire de la riposte depuis notamment la création du Fonds mondial. Des progrès très importants ont été effectués sur le continent africain. Je voudrais rappeler à ce titre que en 2001, on estimait que moins de 1% des patients africains qui avaient besoin de traitement y avaient accès. Avec les chiffres que vous venez de donner, on note quand même qu'il y a eu un progrès considérable. Dans les chiffres que vous avez donnés concernant le monde et l'Afrique, évidemment, on voit très bien qu'il y a un grand écart, mais cet écart-là s'est réduit depuis 2002 notamment. Maintenant, c'est évident qu'il reste des progrès immenses à faire, mais je suis pas particulièrement défaitiste. Oui. Évidemment, je vois très bien que les objectifs du 90 à l'objectif 2020,
on n'y arrivera pas.
On n'y arrivera pas, mais on ne doit pas s'arrêter simplement à ce type de d'échéance, on doit continuer à penser l'épidémie et la réponse à l'épidémie à court, moyen et long terme.
Regardons un peu les choses de plus près, Fred Ebocco, et en particulier la question du dépistage. Une personne dépistée, c'est une personne traitée, en tout cas c'est l'objectif. Et évidemment, les personnes traitées au long cours ne transmettent plus le virus, donc la bataille du dépistage, elle est absolument cruciale, absolument centrale. Et quand on regarde les choses, et en particulier du côté de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, on voit que seul un séropositif sur deux sait qu'il est contaminé. Pourquoi ce taux encore si faible et comment améliorer les choses? Parce que c'est central.
Alors, comment améliorer les choses? Mes collègues chercheurs et l'ensemble de la communauté scientifique se penchent sur la question. Une des pistes en ce moment qui est explorée via des projets de recherche opérationnelle, c'est l'autotest. Mettre à disposition des individus les moyens de se tester eux-mêmes avec une méthodologie qui est relativement simple et qui consiste à avoir un petit kit de dépistage et avoir un résultat en moins d'une demi-heure qui permet aux personnes de savoir si elles sont séropositives ou pas en partant de l'hypothèse qu'elles n'ont pas couru, qu'elles n'ont pas pris de risque au cours des trois derniers mois. Il y a donc une étude qui est en train d'être mise en place en Afrique de l'Ouest. Il y a des études qui ont déjà été effectuées en Afrique du Sud. La question reste aujourd'hui la question de la faisabilité financière d'un tel outil. C'est une piste parmi d'autres au niveau du dépistage. Ensuite,
il y a une autre piste, pardon de vous couper, Fred Ebocco, c'est la gratuité. Très récemment, c'était il y a quelques semaines, je crois, le gouvernement camerounais a annoncé que à partir du 1er janvier prochain, 1er janvier 2020, les tests seront gratuits. Ça, c'est une bonne piste.
Ça, c'est une piste qui est fondamentale, parce qu'on est quand même parti à la fin des années 90 de l'idée qui était absolument farfelue que les gens ne voulaient pas se faire tester. En fait, c'était la question du coût qui se présentait. Lorsque le coût a diminué, le coût de dépistage, on a vu que le nombre de personnes dépistées augmentait. Donc c'est une barrière qui est extrêmement importante. Le dépistage et la gratuité à tout le niveau, au niveau du dépistage, au niveau des soins. Bon, ça c'est déjà le cas majoritairement pour l'accès aux antirétroviraux, mais aussi au niveau des examens biologiques, la gratuité est un enjeu crucial. Et la nouvelle que vous venez d'annoncer concernant le Cameroun fait partie des nouvelles qu'il faut absolument souligner et réfléchir aux moyens par lesquels ça peut être appliqué dans l'ensemble des pays.
Alors, il y a le dépistage et puis il y a d'autres pistes, et notamment la piste de la prévention médicamenteuse, avec un outil qui commence à se diffuser, qu'on appelle PrEP, qui est la prophylaxie pré-exposition, c'est-à-dire qui consiste en la prise de deux antirétroviraux pour éviter une contagion avec un rapport sexuel à risque. Des évaluations sont menées depuis quelques mois sur cette prévention médicamenteuse. Qu'est-ce qu'on peut en attendre concrètement, peut-être en particulier pour le continent africain? Est-ce que c'est par cet outil là que passera le salut du continent?
En tout cas, c'est la prophylaxie pré-exposition, que ce soit en Occident ou en Afrique subsaharienne, elle est extrêmement importante pour les personnes dites à risque, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes et les travailleurs et travailleuses du sexe. Dans des catégories de population qui sont beaucoup plus touchées que la population générale, c'est une piste qui est intéressante, qui est déjà testée, qui donne déjà des résultats probants, mais dans des catégories extrêmement ciblées de la population.
Oui, c'est aussi peut-être pas généralisé du coup.
Oui, la prophylaxie pré-exposition peut difficilement être généralisée parce qu'au niveau de la population générale, ça pourrait envoyer un message absolument paradoxal, dans la mesure où on s'est quand même battu depuis 30 ans pour des comportements à moindre risque, on en arriverait à laisser penser aux gens qui peuvent abandonner le préservatif. Or, dans la PrEP, pour être quand même juste envers cette méthode, on combine plusieurs méthodes. Lorsque on propose la PrEP, il n'est pas question de dire vous n'utilisez pas le préservatif. C'est la combinaison de plusieurs outils qui amène à la réduction de l'infection.
La question des pilules mensuelles, parce qu'il y a des chercheurs qui travaillent aussi sur des médicaments qui pourraient permettre à des personnes séropositives d'être soignées grâce à des médicaments à action prolongée. Alors c'est soit des patchs, c'est soit des gélules, la libération progressive, c'est comme ça qu'on appelle ça. Sur ce plan-là, où est-ce qu'on en est? Et là aussi, est-ce que cette pilule mensuelle pourrait être l'outil par lequel, eh bien, au fond, l'Afrique serait totalement débarrassée de cette épidémie?
C'est une piste intéressante pour une raison qui est extrêmement simple. J'espère qu'on va pouvoir parler de ce que mes collègues, notamment Gabriel Laborde, qui a fait une thèse là-dessus, appelle la quatrième épidémie une épidémie de résistance, qui est liée au fait que le suivi des patients sous traitement pose problème et qu'on ne s'attarde pas assez sur les échecs thérapeutiques. Or, l'allègement du traitement suivant la pilule dont vous venez de parler serait une piste extrêmement intéressante. Parce qu'aujourd'hui, et j'insiste beaucoup là-dessus, on ne s'attarde pas assez sur la question des résistances et des échecs thérapeutiques qui sont liés notamment à la relative lourdeur du traitement. Et de ce point de vue-là, ça pourrait être une réponse extrêmement intéressante.
Le dernier outil qu'il faut quand même regarder ensemble, Frédéric Bocot, le vaccin.
Où est-ce qu'on est ? Alors là, c'est un véritable serpent de mer parce que évidemment, on l'attend avec impatience, mais on l'attend depuis tellement longtemps que il faut garder espoir, mais il faut aussi activer tous les leviers qui sont déjà à disposition pour essayer d'apporter la riposte la plus efficace.
Ouais, donc pour l'instant, faut pas compter dessus en tout cas.
C'est pas tellement qu'il faut pas compter dessus, il faut déjà compter et exploiter
sur ce qu'on a.
Qu'on a au maximum, et c'est déjà pas le cas.
Alors, justement, regardons maintenant plus près les politiques sanitaires et peut-être les différences en fonction des régions, parce que je le disais tout à l'heure, il y a par exemple sur la question du dépistage de grandes différences entre l'Afrique australe et orientale et l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Comment le comprendre ? Pourquoi au fond ce retard de l'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest par rapport aux pays plus au sud et plus à l'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est un problème de politique sanitaire ?
Pas seulement. Je pense que c'est un ensemble de facteurs qui sont politiques, qui sont aussi épidémiologiques. On s'est rendu compte depuis le début de l'épidémie de manière qui peut sembler paradoxale. Plus les taux de séroprévalence sont élevés, plus la confrontation à la maladie est élevée, plus les comportements changent. L'Afrique de l'Ouest n'est pas la région, en dehors de la Côte d'Ivoire qui était le pays le plus touché, n'est pas la région la plus affectée du monde, et ça peut avoir tendance à éloigner
une forme de négligence, en fond.
Les personnes à prendre vraiment véritablement conscience de tous les enjeux. C'est une des explications. L'autre explication, elle est d'ordre politique, mais aussi la première, c'est-à-dire que la pression qui est exercée sur un ministre de la Santé en Afrique du Sud ne va pas être la même au Niger, parce que l'impact de l'épidémie n'est pas le même. Mmh. Ensuite, il y a des questions de volonté politique aussi, d'engagement communautaire, qui vont être très, très variables suivant les régions. En Afrique du Sud, on a des mobilisations communautaires qui sont extrêmement fortes. On a aussi une attention particulière des réseaux transnationaux de la société civile, des grandes ONG, qui vont aller en priorité dans des zones à prévalence élevée et qui vont activer justement la mobilisation et politique et communautaire.
Ce qui ne veut pas dire que tous les pays d'Afrique de l'Ouest sont de mauvais élèves. Si on regarde par exemple cas par cas, prends le cas du Burkina Faso, en une quinzaine d'années, le Burkina est parvenu à juguler quasiment l'épidémie de sida VIH. Quand on regarde le nombre de nouvelles infections par le VIH, on voit qu'il s'est stabilisé autour de 4000 depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai regardé les chiffres hier. C'est quoi la recette du Burkina qui a permis justement d'arriver à ça ?
Alors je ne sais pas s'il y a une recette unique et miracle au niveau du Burkina. Un des premiers indicateurs qu'il faut prendre en compte, c'est aussi que la prévalence était relativement faible. Et à tout seigneur, tout honneur, il faut aussi rendre hommage à la mobilisation politique qui a eu lieu au Burkina Faso, à la mobilisation de tous les acteurs, y compris de l'ancien président de la République,
Blaise
Compaoré, qui était devenu, c'était symbolique puisqu'il assistait à une réunion par an, mais qui était devenu le président du Conseil national de lutte contre le sida au Burkina Faso. C'est un symbole qui est important, mais ce qui a aussi accompagné la mobilisation communautaire. Au Burkina, dernier facteur, le Burkina a aussi bénéficié, grâce à l'ouverture de ses militants associatifs, de l'ouverture à une coopération avec les réseaux de militants internationaux qui ont beaucoup pesé, notamment en termes de plaidoyer au niveau du Burkina Faso, et ça a été relativement efficace.
Il y a justement certaines voix dans les ONG, les associations qui expliquent, qui proposent en tout cas de démédicaliser la prise en charge du sida VIH pour que, au fond, le manque de personnel de santé, qui est assez fréquent en Afrique, malheureusement, pas seulement d'ailleurs, mais notamment, soit plus un obstacle précisément à l'accès aux soins. Est-ce que ça vous semble être une bonne idée, démédicaliser l'accès aux soins ?
Alors, en fait, il faut limiter la surmédicalisation de la question. Démédicaliser, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. En tout cas,
ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas forcément nécessairement des médecins, des infirmiers, etc., qui prennent en charge cet accès aux soins.
J'étais prudent sur l'expression démédicaliser pour la raison que ça pourrait laisser penser au grand public au niveau africain qu'on va s'éloigner du traitement. Mais la vraie question est en fait de limiter la surmédicalisation et de réduire la lutte contre le VIH y a sida aux médicaments et aux médecins seulement. Et la question que vous posez est extrêmement importante en arrière-plan, qui est celle de la disponibilité du personnel médical. Là aussi, il y a des recherches qui ont été faites pour montrer qu'en impliquant les personnels paramédicaux, dans certains cas, on arrive à suivre les patients de manière relativement correcte, en tout cas pour les patients qui ne connaissent pas d'épisodes cliniques particuliers. Et la preuve a été faite par plusieurs recherches. C'est une piste, mais ce n'est pas la seule. Il faut aussi garder la pression sur les donateurs internationaux, parce que toutes les méthodes et tous les outils dont on a parlé depuis quelques minutes ont un coût, et il faut pouvoir suivre au niveau des financements internationaux et des contributions nationales.
Ça tombe bien, on va y venir à cette question des coûts, frais, des bocaux. Mais d'abord, question un peu générale, mais ô combien importante. Vous disiez récemment, c'était dans une tribune consacrée à la santé publique en Afrique, c'était sur le site Ideas for Development, que les politiques les plus efficaces sont pas forcément celles qui sont dictées, qui ont été dictées, pardon, par les partenaires internationaux précisément, mais celles qui ont été élaborées sous l'impulsion des pouvoirs publics nationaux et locaux. Vous avez pu voir la différence. Au fond, s'adapter au contexte local, au contexte national, ça permet d'avoir de bien meilleurs résultats, y compris d'ailleurs lorsque les moyens financiers sont moins importants. Mais concrètement, ça veut dire quoi, adapter un programme en fonction du contexte local? Est-ce que vous avez des exemples un peu notables, sur évidemment ce qui nous intéresse aujourd'hui, le SIDA-VIH, de l'adaptation d'un programme, disons, pensé au niveau supranational, au niveau international, et ensuite adapté au contexte local?
L'exemple le plus lumineux, et qui me vient directement à l'esprit, c'est le suivi et la prise en charge des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes au Sénégal. Nous sommes en face d'un pays où, légalement, les hommes n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes, et où se pose la question de la santé publique. Et les personnels de santé, les médecins, vont rentrer en relation avec les magistrats, les commissaires de police, pour faire en sorte que on puisse suivre convenablement des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes qui sont confrontés à l'épidémie à VIH dans des négociations qui vont être informelles, de manière à protéger des populations vulnérables. Ce n'est pas une méthodologie ou un message qui est venu de la communauté internationale, qui porte plus sur le droit, sur changer le droit pénal, notamment au Sénégal. C'est pas sur ce levier-là que les médecins sénégalais ont joué, mais ils ont joué sur le bon sens de toutes les personnes impliquées et de tous les corps impliqués. Ça, c'est un exemple qui me vient à la volée. Un exemple plus ancien, mais qui est pas vraiment un exemple, qui est juste une attitude pour montrer comment l'Afrique était un peu écrasée par les recommandations internationales. Aujourd'hui, on réfléchit de plus en plus à la santé de manière globale. Qu'on pense à la gratuité aujourd'hui, on pense aussi de plus en plus à la couverture maladie universelle. Au milieu des années 80, au début des années 90, quand on vivait le VIH en Afrique comme le choc du siècle, et à juste titre, des médecins africains disaient déjà, et ça vous pourrez en parler avec le docteur Mpelé un jour, disaient déjà, mais comment je vais expliquer à des gens que je vais privilégier la prise en charge du VIH, y compris ensuite quand les coûts ont commencé à baisser, et que une dame qui arrive avec son enfant qui souffre de rougeole, je ne pourrais pas la prendre en charge. Là aussi, il y avait une espèce de dichotomie comme ça, et on n'a pas assez écouté les médecins africains au début de l'épidémie, qui faisaient remonter le fait que le VIH était enchâssé dans un ensemble de questions de santé.
Peut-être pour des raisons de gouvernance, on va y venir tout de suite. Vous faisiez référence à Pierre Pellet, c'est un médecin, on l'aura tout à l'heure par téléphone, qui est l'une des grandes figures de la lutte contre le SIDA-VIH
tout à fait
au Congo. Sur la question de la gouvernance, vous avez écrit un article sur ces questions-là, intitulé « Gouvernance et SIDA en Afrique, instrument de l'action publique internationale, l'exemple du Fonds mondial » dans la revue Monde en développement. Et vous dites à propos de cette gouvernance SIDA qu'elle est à la fois éclatée et intégrée. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi est-ce qu'elle est éclatée? En quoi est-ce qu'elle est intégrée? Et puis ensuite, vous nous rappellerez quand même les principaux acteurs internationaux de cette lutte, parce que c'est important d'avoir ce paysage en tête. Mais d'abord, pourquoi éclatée et intégrée à la fois?
Alors, éclatée du fait de la constellation extraordinaire des acteurs qui interviennent. On n'a jamais eu dans le champ de la santé, dans l'histoire de la santé, depuis le XXe siècle, autant d'acteurs qui interviennent. Et en particulier pour le continent africain, on n'a jamais vu autant d'acteurs qui interviennent. On a le Fonds mondial, on a le programme américain, on a l'ONU-SIDA, on a les agences de coopération bilatérale, les grandes organisations non gouvernementales qui interviennent, relativement éclatées, mais en même temps intégrées, en ce sens que il y a, à travers notamment le Fonds mondial, des plateformes qui vont se mettre en place et qui vont regrouper, en tout cas qui vont avoir la volonté de regrouper les principaux types d'acteurs autour des pouvoirs publics, et là en l'occurrence autour des pouvoirs publics africains. Et que ça, c'est une nouveauté extrêmement intéressante qui peut servir aussi d'exemple pour la réponse à d'autres pathologies, y compris pour monter d'autres politiques publiques au-delà des questions de santé. C'est pour ça qu'on a parlé en même temps avec mes collègues, parce que j'ai pas écrit l'article seul.
Oui, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner les autres co-auteurs, je les ai pas en tête.
Voilà, Élise Demange, voilà. Thomas Tahan et Sylvain Landry.
Rendons à César. La question toujours de la gouvernance, faut regarder effectivement quels sont les acteurs. Vous avez évoqué bien sûr le programme AIDS de la Banque mondiale qui avait été créé en 99. Il y a le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui avait été créé un tout petit peu plus tard en 2002. Et puis il y a aussi tout un tas d'acteurs privés, des fondations, la fondation Clinton, la fondation Bill et Melinda Gates. Bref, il y en a plein. Quels sont leurs rôles, leur poids aujourd'hui, et peut-être en particulier sur la question du financement qui est évidemment centrale. Qui donne? Qui paye? Frédéric Beaucoup.
Alors, les grands contributeurs sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Japon et quelques autres, dont les fondations dont vous avez parlé, au rang desquelles il faut impérativement, évidemment, rappeler le rôle très important de la fondation Bill et Melinda Gates.
Mais le Fonds mondial, ça reste l'acteur principal, en tout cas en termes de financement.
En termes de financement, le Fonds mondial reste l'acteur clé, avec des financements qui viennent par ordre de grandeur des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne et du Japon. Et des contributeurs privés et des fondations. Les États-Unis, pour la période 2017-2019, apportent 4,3 milliards de dollars. Le Royaume-Uni, 1,1 milliard d'euros. La France, 1,08 milliard d'euros, etc. La question qui s'est posée au niveau des financements internationaux, c'est qu'on a eu une période qui était extraordinaire d'optimisme et de contribution, qui était la période, pour aller vite, de 2002 à 2012.
Donc au moment de la création du Fonds mondial.
Au moment de la création du Fonds mondial, et pendant la première décennie de vie du Fonds mondial, il fonctionnait sur un modèle qu'on peut appeler un modèle articulé sur la demande. Un pays formule sa demande, si elle était jugée cohérente par les institutions du Fonds mondial, la subvention, comme on l'appelait à l'époque, était accordée. Il y a eu un changement autour de 2012-2013 avec la mise en œuvre du nouveau modèle de financement.
Alors attendez, n'allez pas trop vite parce qu'effectivement, s'il y a un nouveau modèle, c'est aussi parce qu'il y a une crise. Ouais. Donc on va d'abord essayer de comprendre le premier modèle, ensuite décrire la crise et ensuite voir le modèle qu'il y aura derrière. Sur le premier modèle, on va dire, celui qui naît dès 2002 sous l'impulsion effectivement de la création de ce fonds mondial, peut-être qu'on peut rappeler les objectifs. Alors effectivement, parmi les objectifs, il y a l'augmentation des financements et de ce point de vue-là, visiblement, Frédéric Beaucoup, ça a très bien fonctionné. Mais il y a aussi toute une question qui concerne précisément la gouvernance SIDA d'une certaine manière et les outils qui permettent de voir quelles sont les politiques qui fonctionnent. C'est-à-dire que quand on crée ce fonds mondial, on met aussi en place des systèmes, des dispositifs d'évaluation pour voir qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui ne l'est pas, pour choisir finalement comment on va financer les choses. Essayez de nous décrire un peu cet outil-là.
Alors, le financement du fonds mondial était fondé sur ce qu'on appelait des requêtes. Le pays donc formulait sa requête en matière de sida, mais aussi de tuberculose et de paludisme. Et la copie, si vous voulez, était étudiée par le Fonds mondial. Si elle était cohérente, le pays recevait à peu près la somme qu'il avait demandée. Il y avait évidemment des cycles d'évaluation assez réguliers et on pouvait refuser la requête d'un pays, ce qui, d'un point de vue symbolique, était extrêmement grave parce que quand il y avait une mauvaise gestion, et que la requête du pays était rejetée, bien qu'on mettait en place un protocole d'urgence, les patients recevaient ça comme si ils devaient être en quelque sorte victimes de la mauvaise gouvernance.
C'est arrivé.
De leur dirigeant. C'est arrivé plusieurs fois.
Pour quel pays?
Où les requêtes ont été rejetées. Ça arrivait pour un certain nombre de pays, ça arrivait pour le Cameroun, ça arrivait pour la Mauritanie, ça arrivait relativement souvent, pas toujours pour le même pays, mais ça arrivait plusieurs fois. Et dans un grand nombre de pays. Il y avait de bons élèves, évidemment, comme le Sénégal, où c'est pratiquement pas arrivé, en tout cas pas pour le VIH.
Attendez, je vous arrête là, pardon, Frédéric Bocco, parce que je vois tout de suite, au fond, poindre une inégalité. C'est-à-dire que d'abord, je comprends que pour pouvoir faire des requêtes, faut-il encore être en capacité de le faire ? Parce que ça veut dire qu'il faut avoir des acteurs sur place qui sont en capacité de monter des dossiers suffisamment solides pour être acceptés, déjà. Donc, pas sûr que tous les pays précisément du continent africain soient en capacité de le faire. Et puis, il y a ceux en plus qui, lorsqu'ils le font, se voient leur dossier refusé. Donc, on a déjà là une première inégalité qui est en train de se forger.
Qui était en train de se forger et qui a fait partie, en fait, des critères du conseil d'administration du Fonds mondial pour proposer un nouveau modèle de financement parce que les requêtes étaient critiques. Il y a eu un deuxième argument pour changer ça, qui était de dire il y a aussi eu des cas de mauvaise gouvernance, précisément de corruption, qui font que, etc.
Il faut en parler parce que c'est ça qui a fait qu'on a réformé. Parce qu'on s'était rendu compte, en fait, qu'il y avait déjà des inégalités, mais ce qui va changer, c'est précisément ce qui se passe avec ce qu'on appelle le syndrome mauritanien. Il faut expliquer ça.
Alors, c'était l'argument qui a été utilisé par les pays qui voulaient d'un changement du mode de financement du Fonds mondial. Est-ce que le syndrome mauritanien, il y a eu la Mauritanie, le Mali, l'Ouganda, où il y a eu des malversations. La question qui s'est posée du point de vue de la mobilisation collective internationale qui était contre ce changement du modèle de financement du Fonds mondial était de dire, au fond, qu'on fait les calculs au niveau de tous les pays qui ont reçu des subventions du Fonds mondial, le pourcentage des sommes détournées était finalement relativement dérisoire. Ça ne veut pas dire que la lutte contre la corruption n'était pas nécessaire. Simplement, il y a eu une conjonction entre la crise financière internationale et l'argument de la corruption au niveau africain, au niveau pas seulement africain, mais au niveau des pays bénéficiaires des subventions du Fonds mondial. Et ça a été pas évident du tout de soutenir cet argument de la corruption, puisque l'ancien directeur exécutif du Fonds mondial, Michel Kardashkine, estimait un professeur français, estimait que le fonds fonctionnait relativement bien, et il n'était pas le seul à le penser, d'ailleurs. Maintenant, la reprise en main, pour aller vite, des États-Unis, notamment au sein du conseil d'administration du Fonds mondial, était aussi liée à un argumentaire qui n'était pas seulement lié à la corruption, qui était, on veut changer la manière de fonctionner du Fonds mondial et de le ramener à des critères qui ressemblent plus au New Public Management.
Oui, mais c'est bien cette question des scandales de corruption, et notamment celui qui s'était passé en Mauritanie, et le fait qu'au fond, les autorités mauritaniennes n'aient pas voulu essayer de régler le problème, parce qu'on leur a demandé de poursuivre en justice les personnes qui avaient été impliquées dans ces détournements, et ils n'ont pas fait. Donc ça a été quand même ce qu'il y a...
Il y a quand même le secrétaire permanent et son adjointe qui avaient eu affaire à la justice quand même à l'époque, et que les sommes qui avaient été reprochées à la Mauritanie d'avoir été détournées ont quand même été intégralement remboursées au dernier euro près.
D'accord. Alors donc c'est ça qui fait qu'on bascule et qu'on change de modèle et qu'on prend au fond un tournant
entre
libéral,
autres,
on va
entre
dire.
Entre autres, voilà.
Quel est le modèle qui émerge finalement ?
Le nouveau modèle de financement, si vous êtes au Fonds mondial, ils vont vous dire qu'il est toujours basé sur la demande. Si vous êtes dans un pays africain, que vous soyez à Dakar, à Abidjan, à Yaoundé, on va vous dire qu'en fait, il s'agit d'une réponse à une offre. Puisque aujourd'hui, le cycle de financement dure 3 ans. On ne parle plus de requêtes, mais on demande à un pays de rédiger une note conceptuelle. Cette note conceptuelle est fondée sur une somme qui est déjà prescrite à l'avance. C'est-à-dire que vous êtes la Côte d'Ivoire, on vous dit pendant la prochaine période, le prochain cycle de 3 ans, vous allez recevoir tant de millions. Et à partir de la somme prescrite, on vous demande suivant...
De proposer un programme.
On vous demande de proposer un programme, voilà. Donc les autorités sanitaires des pays en question sont tout à fait en droit de dire, en fait, on me fait une offre à laquelle je dois répondre.
Bon, donc
soyons quand même justes, le système s'est simplifié. Ouais. Il n'y a plus tout un gros dossier à amener à Genève. Maintenant, tout est dématérialisé. On peut monter sa demande en étant accompagné quand on veut être neutre ou cornaqué. par alors... le Fonds mondial qu'on veut le plus critique.
Ouais, mais justement, c'est là où je veux en venir, Fred Abogo. Accompagner ou cornaquer? Bah, accompagner ou cornaquer? C'est... Quelle est la marge de manœuvre concrètement pour les pays à qui on dit, bah voilà, on va vous donner sur les trois prochaines années tant, proposez-nous quelque chose. Le quelque chose en question, est-ce qu'il est véritablement proposé depuis, j'allais dire, le terrain africain et on remonte et on voit les propositions, éventuellement on les négocie, ou est-ce qu'on a au fond des systèmes un peu de réponse clé en main qu'on adopte et qu'on propose?
Alors, il y a les deux phénomènes en même temps. Et c'est ça un peu la complexité du nouveau modèle de financement. Il fallait simplifier. Et le système continue au fur et à mesure à être simplifié, parce que c'était un peu un des arguments. En même temps, le nouveau modèle de financement du Fonds mondial ressemble quand même beaucoup à un modèle clé en main. Et ce modèle clé en main a été proposé et il est mis en scène à travers les instances de coordination nationale. Et le fait que le Fonds mondial demande aux pays d'avoir un dialogue pays, je mets entre guillemets, c'est comme ça qu'il appelle, laisse penser qu'il y a une marge de manœuvre qui est laissée aux acteurs nationaux, à la société civile, au pouvoir public, à une négociation qui va précéder la mise en place de la note conceptuelle. Là, on est au niveau théorique, avec toujours en théorie le fait que la société civile doit être représentée au sein de ces instances de coordination nationale. Sur le terrain, il y a quand même quelques nuances dont on pourra parler.
Non, on en parle tout de suite.
Voilà. Alors, dans un projet que j'ai l'honneur de diriger, on essaye de comparer la manière de fonctionner des instances de coordination nationale en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Sénégal. Et la collègue qui a mené l'étude au niveau de la Côte d'Ivoire, Anne Beckling, qui est sociologue, elle a compté la prise de parole au cours de ces réunions de l'instance de coordination nationale de Côte d'Ivoire. Évidemment, la société civile est représentée à hauteur de 40%, les acteurs internationaux à hauteur de 20%, mais ces acteurs internationaux qui représentent 20% de l'effectif de l'instance de coordination prennent la parole une fois sur deux. C'est juste un exemple pour montrer qu'on est aussi en face de rapports de force qui ne sont pas toujours à la faveur de la société civile et qui peuvent aussi ne pas l'être vis-à-vis des pouvoirs publics nationaux.
Je croyais que vous allez me dire un chiffre encore plus impressionnant. Une fois sur deux, j'allais dire, c'est pas si mal finalement, même s'il ne représente que 20%.
Une fois sur deux, il ne représente que 20%, oui, c'est quand même déjà... On peut s'interroger sur le rapport de force.
Oui, mais ça veut dire que les acteurs locaux ont quand même la parole la moitié du temps.
Ah non, il y a plusieurs types d'acteurs au niveau de l'instance de coordination nationale. Il n'y a pas que la société civile et les acteurs internationaux. Il y a la société civile, les acteurs internationaux, les pouvoirs publics, etc. D'accord. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un prend la parole au niveau de cette instance de coordination nationale, c'est un exemple, une fois sur deux, c'est un acteur international. Ouais, mais il y a plein d'autres acteurs au niveau de cette instance.
Et est-ce qu'on peut espérer qu'une réforme permette de donner davantage de parole aux sociétés civiles, ou est-ce qu'il ne faut pas rêver? La réforme, déjà, c'est compliqué quand il n'y a pas vraiment de crise, mais alors... quand il y a une crise, alors quand il n'y en a pas.
La question est plus générale.
Je
pense pas que les acteurs internationaux soient doués d'une mauvaise foi particulière. C'est simplement aussi une question d'expertise. Ces instances-là sont portées par des normes extrêmement techniques. Et c'est pas tellement qu'on interdit à la société civile de parler. Elle n'a pas toujours l'expertise et les moyens techniques de s'exprimer et d'intervenir comme il faudrait.
On est avec vous, Fred Eboko, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, auteur notamment de Repenser l'action publique en Afrique. On parle toute cette semaine d'épidémie et aujourd'hui de VIH, un virus bientôt sous contrôle. C'est la question qu'on se pose ce matin dans Culture Monde, 11h32 minutes.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On va retrouver tout de suite Pierre Pellé, dont vous parliez tout à l'heure. Il est en ce moment à Cotonou au Bénin, qui est médecin, ancien directeur du programme de lutte contre le sida de la République du Congo et puis ancien directeur de l'ONU Sida Afrique de l'Est et Centrale. Votre ouvrage, Pierre Pellé, qui vient de paraître, Itinéraire d'un médecin africain du commencement au début de la fin de l'épidémie du sida en Afrique, paru aux éditions Maya, c'est un récit autobiographique qui retrace 25 ans d'engagement depuis l'apparition de la maladie au début des années 80. Vous racontez comment vous débarquez tout jeune médecin en 86 à Brazzaville, dans un hôpital prestigieux. Vous allez devenir assez vite le spécialiste Congo du sida VIH. Alors que les malades déferlent en nombre, vous réorganisez les services pour les rendre plus ouverts, plus transdisciplinaires. Et vous dites à propos du Congo, justement, qu'il s'est montré assez exemplaire dans sa gestion du sida VIH. En quoi, Pierre Mpelé, le Congo-Brazzaville vous semble justement avoir été plutôt bon dans la réaction vis-à-vis de cette catastrophe sanitaire? Et finalement, pourquoi? Quelles sont les conditions de la bonne réaction, du bien réagir? Est-ce que ce sont des questions de volonté politique, des questions de gouvernance, Pierre Pellé?
Parce que nous avons fait pression, nous avons fait un plaidoyer, je crois, qui a apporté des fruits, parce que le gouvernement a réagi dès 1984 en mettant en place un comité national de coordination, un comité scientifique de coordination de l'infection à VIH pour mieux connaître cette infection et voir quels étaient les différents impacts de cette nouvelle maladie sur le système de soins, les hôpitaux, mais aussi sur la population. Et donc, le gouvernement nous a écoutés et finalement, le 18 décembre 1985, le gouvernement a pris symboliquement, officiellement, le texte qui mettait en place le Comité national de lutte contre le sida, qui voulait dire simplement que le Congo reconnaissait officiellement et publiquement l'épidémie du sida dans son pays, alors que plusieurs pays tergiversaient, plusieurs pays faisaient semblant de pas reconnaître le sida, enfin en tout cas la maladie dans leur pays, en évoquant des raisons qui étaient pas tellement, on pourrait dire, justifiables. Et donc voilà, c'est pour cela que le Congo a été un des premiers pays en Afrique à reconnaître ouvertement l'épidémie du sida et aussi son ampleur, parce que un an plus tard, le Congo déclarait 1000 cas de sida à l'Organisation mondiale de la santé et se trouvait donc au numéro un des pays les plus touchés en Afrique. Donc c'était pas simplement la volonté politique du gouvernement, mais je peux dire que les acteurs que nous étions et avec le poids scientifique du professeur Marc Gentilini, nous avons pu convaincre le ministre de la Santé, convaincre le gouvernement de prendre en main la lutte contre le sida et de placer le sida comme une priorité nationale.
Alors, une fois c'est vous qui le convainquez, une fois c'est lui qui vous convainc. Parce que après quelques mois, en août 87, alors que vous projetez de rentrer à Paris pour présenter le résultat de vos travaux, le ministre de la Santé du Congo, justement, vous demande de rester pour prendre le leadership de la coordination de la lutte contre le sida VIH. Ce que vous allez accepter. Alors, qu'est-ce qu'il vous propose justement pour vous convaincre? Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce qu'on voit bien qu'il y a derrière aussi, au-delà des enjeux purement sanitaires, des considérations politiques très très fortes de la part des autorités congolaises qui peut-être ont pu chercher à tirer une forme de bénéfice politique de cette crise, Pierre Pellé.
Mais c'est vrai que le ministre de la Santé dans ces années-là, en 1987, était un vrai politicien et qui savait donc tirer profit des opportunités. Je crois qu'un homme politique, c'est ça, un vrai homme politique. Quand il est en face d'un problème important, il essaie d'en tirer un profit personnel en tant que politicien, mais aussi montrer qu'il a l'écoute des problèmes qui menacent la santé des populations et qu'il il prend la tête, je voudrais dire, être aux premières lignes pour lutter contre le sida. Parce que dans ces années-là, le sida est un vrai problème. On en parle tous les jours dans tous les médias, radio, télévision, au niveau international. C'est une mobilisation importante. Donc pour un ministre, un vrai politicien, c'est donc de prendre à bras le corps ce problème.
Je comprends très bien le point de vue du politicien, mais comment est-ce qu'on fait quand on est, comme vous, un médecin pour justement naviguer dans cette politique? Parce qu'effectivement, c'est de cela dont on parle. Quand on se retrouve sans forcément le vouloir être un acteur à part entière au fond de la vie politique congolaise, comment est-ce qu'on fait?
Il faut pas simplement être un bon médecin, c'est pas suffisant. Il faut avoir des arguments à la fois, parfois même des arguments politiques, un plaidoyer suffisamment éclairé pour que ça éclaire la lanterne des politiciens, parce qu'il faut utiliser tous les arguments et faire comprendre à ceux qui nous gouvernent que ce problème est beaucoup plus important que on le pense et qu'il il s'agit de le prendre comme un vrai défi pour le pays et y commencer à y répondre et que le politicien en tirera le bénéfice. Donc voilà, j'ai usé de mes modestes compétences de politicien, on pourrait dire.
Oui, on peut le dire. Moi, j'étais frappé de voir combien, effectivement, au fond, l'action politique est au cœur de votre action tout court et les rencontres extrêmement nombreuses avec les chefs d'État et les premières dames d'Afrique aussi très nombreuses que vous avez régulièrement côtoyées.
Oui, mais vous savez, pour faire avancer la santé en Afrique, hier, aujourd'hui et demain, il suffit pas d'être compétent techniquement ou scientifiquement. Il s'agit de montrer aux gouvernants que la santé est un problème politique, est un enjeu important. Mais la santé, c'est un long combat pour améliorer l'état de santé, mettre en place un système de santé ou simplement, en ce temps-là, mettre en place une lutte, un programme national de lutte contre le sida devant un mal dont on n'avait ni traitement ni vaccin, dont l'action était centrée essentiellement sur la prévention, sur l'information, l'éducation, la communication, mais aussi parce que ce mal touchait, nous touchait au plus sensible de notre société, de notre culture, de nos traditions, qui était la sexualité. Donc voilà, et je pense que on ne peut pas faire le développement sans la santé. La santé est à la base du développement.
Vous parliez de combat, Pierre Pelé. On est peut-être justement à la fin du combat. Le sous-titre de votre livre, c'est « Du commencement au début de la fin de l'épidémie de sida en Afrique ». Et votre avant-dernier chapitre est intitulé « Le début de la fin de la pandémie ». Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Ce sera ma dernière question pour en venir à bout. C'est quoi les décisions politiques et sanitaires pour en finir?
Oui. Je donne toujours l'exemple d'un coureur de marathon qui, après avoir parcouru les 40 kilomètres, il ne ralentit pas au dernier tour, il accélère. Et donc, il faut se convaincre, d'abord reconnaître qu'on est au début de la fin et pour cela, prendre des décisions politiques les plus importantes pour en finir avec le sida. Mais quelles pourraient être ces décisions politiques majeures? C'est pas simplement plus d'argent et demander à la communauté, en tout cas internationale, plus d'argent, sans savoir ce qu'il faut en faire. Je pense qu'il faut d'abord prendre des décisions politiques et ensuite voir avec quels moyens les mettre en œuvre. Et donc, par exemple, en Afrique, on sait très bien qu'il y a des progrès énormes qui ont été réalisés. Entre 2010 et 2017, il y a eu 36% de réduction du nombre de nouvelles infections, et qu'il y a eu plus de 40% de réduction des décès liés au VIH-SIDA entre 2000 et 2017. Donc c'est une réalité. Mais maintenant, comment en finir? Il faut prendre des décisions. D'abord, un, s'attaquer aux groupes à risque qui constituent encore des niches d'infection à VIH pour éviter de la propagation plus continuer ou avoir des phénomènes de rebond. Donc c'est les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et en Afrique, on est dans la politique de l'autruche, on ne veut pas le reconnaître, on met devant la discrimination, la stigmatisation, avec des politiques farfelues, basées sur la méconnaissance et la non-reconnaissance de l'homosexualité en Afrique. Elle existe, elle est bien là, alors laissez ceux qui veulent avoir des rapports avec d'autres hommes les avoir, mais essentiellement c'est de dire comment nous allons mettre à leur disposition des services de soins, des services de dépistage, des services de prévention pour qu'ils puissent se protéger contre le sida. Il y a les professionnels du sexe. Il faut reconnaître que, bon voilà, les jeunes femmes, dans leur pauvreté, sont obligées de se vendre pour survivre. Et donc, il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, c'est pas simplement les jeunes filles, mais il y a aussi les jeunes garçons qui, pour des raisons de pauvreté, se prostituent, des jeunes garçons qui vont avec des hommes de plus âgés, et donc il faut reconnaître ces groupes-là et leur apporter les stratégies les mieux adaptées pour réduire leur vulnérabilité vis-à-vis du VIH-SIDA.
Voilà, merci beaucoup Pierre Pelé d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur du programme de lutte contre le sida de la République du Congo et puis auteur de cet ouvrage Itinéraire d'un médecin africain qui vient de paraître au mois de janvier aux éditions Maya. Fred Eboko, réaction peut-être sur cette figure de la lutte sida-VIH en Afrique.
Alors, j'aurais 10 000 choses à dire au docteur Pelé, je vais abréger parce que ça a été une figure importante au niveau de la lutte contre le sida au Congo mais aussi au niveau africain. Ouais. Là, il a parlé de ses liens et de son engagement aux côtés des politiques. Et on pourrait aussi souligner l'engagement qu'il a eu aux côtés des chercheurs en sciences sociales sur la réflexion sur tout ce qui était politique publique, information, communication. Pierre Pelé a ouvert les portes de ses bureaux à des équipes de l'IRD et je me souviens que le premier grand programme de l'IRD auquel j'ai été associé quand j'étais en thèse concernait le Cameroun, le Congo, le Kenya, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mmh. Et que le docteur Pierre Pelé avait accueilli le responsable de ce programme qui et Marc-Éric Grenet, et nous avons monté comme ça la première étude comparée sur les politiques publiques de lutte contre le sida en Afrique. Et là, je rends vraiment un hommage appuyé à tous les précurseurs de la lutte contre le sida sur le continent africain.
Dont
Dr Mpelé fait partie, dont Dr Ndoye a fait partie au Sénégal, professeur Capture au Cameroun, etc., etc.
Elles ont été évidemment centrales, toutes ces figures.
Bien sûr.
On va retrouver une nouvelle invitée par téléphone, Annabelle Desgrés-Duloup, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes démographe et directrice de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, à l'IRD également, comme Fred Ebocco. Vous avez co-dirigé une enquête sur les parcours de vie d'immigrés d'Afrique subsaharienne en Île-de-France, chapeautée par l'IRD et l'ANRS, qui est une agence de l'INSERM chargée de la recherche publique sur le VIH et les hépatites virales. Et cette enquête a montré que sur les 6220 nouveaux cas de sida-VIH diagnostiqués en France en 2013, 31% concernaient des migrants d'Afrique subsaharienne. Alors, en théorie, c'est pas forcément très surprenant puisqu'on se dit que puisque l'Afrique est le continent le plus touché, il est assez normal au fond que les migrants qui en sont originaires soient plus représentés dans le paysage des nouveaux malades sur le territoire français. Sauf que ce que montre aussi votre étude et qui est peut-être plus surprenant, c'est le fait que nombre d'entre eux semblent avoir contracté le virus, la maladie, en France. Alors, quelle est justement cette proportion et comment comprendre ce phénomène? Pourquoi les migrants subafricains se retrouvent contaminés une fois qu'ils sont arrivés en France?
Alors effectivement, alors le fait qu'un tiers des nouveaux diagnostics qui ont lieu en France concernent des personnes qui sont nées en Afrique subsaharienne, ça on le connaissait en fait depuis un petit moment, puisque les déclarations obligatoires des nouveaux cas de diagnostic SIDA comprennent le pays de naissance des personnes. Mais il y avait cette idée que si les Africains étaient plus touchés que les autres groupes de population en France, c'est parce qu'ils venaient d'Afrique, continent qui est très touché par l'épidémie, enfin le plus touché par l'épidémie. Et effectivement, ce qu'on a montré dans cette enquête qui s'appelle Parcours, c'est que alors un tiers à la moitié, selon que vous savez, ce sont des estimations statistiques, donc on a différentes hypothèses. Et quand on est en hypothèse très stricte, c'est-à-dire on se donne aucun risque de se tromper, on peut mesurer que un tiers environ des personnes se sont très 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 probablement infectées après l'arrivée en France. Mmh. Alors effectivement, ça a beaucoup changé la vision qu'on avait de l'épidémie chez les Africains en France, parce que ça veut dire que il s'agit plus seulement de dépister le plus vite possible les gens quand ils arrivent en France pour pouvoir leur proposer un traitement. Il faut aussi développer de façon très sérieuse une prévention et une prévention adaptée. Mmh. Alors, vous me posez la question pourquoi ? C'est toujours difficile de dire très exactement pourquoi. Ce qu'on a observé, nous, c'est que les personnes qui s'infectent en France, ce sont des personnes qui sont plus exposées à la grande précarité, c'est-à-dire qui sont plus souvent sans logement, ou en tout cas sans logement à elles, donc doivent être hébergées, changer très souvent de logement, sont plus souvent sans titre de séjour. Et du coup, notre interprétation, c'est que, et qui est aussi soutenue par tout ce que nous disent les associations, par ce qu'on peut voir sur le terrain, c'est que quand on est dans la grande précarité, d'abord on a autre chose en tête que de se protéger du VIH. Il faut d'abord trouver un logement, trouver de quoi se nourrir. Donc le VIH passe en second plan. Et puis on peut accepter, alors c'est en particulier vrai pour les femmes, on peut accepter des rapports sexuels qu'on n'aurait pas souhaité et qu'on ne peut pas forcément protéger en échange d'un hébergement, d'un soutien, d'une protection.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'il y a au cœur de cette étude, au fond, c'est l'idée que la précarité, eh bien évidemment, j'allais dire, c'est un facteur qui augmente le risque d'être infecté, quelles que soient évidemment les origines des uns et des autres. Quelle prise en charge précisément pour ces migrants infectés par le SIDA-VIH qui ne sont pas forcément en situation légale? Et est-ce qu'il existe des stratégies de prise en charge spécifiques pour ces populations migrantes, Annabelle Desgrés-Duloup?
Alors, la prise en charge, elle est bonne. On a pu le montrer dans l'étude, c'est-à-dire que tout l'enjeu, c'est d'arriver au dépistage et donc au diagnostic si on est séropositif. Parce qu'une fois qu'on arrive au diagnostic, le reste suit bien, c'est-à-dire qu'on est vite, on rentre vite dans le système de soins, on est vite et bien pris en charge et on prend bien ses traitements. Ça, c'est quelque chose qui est très constant, que ça soit dans les pays africains ou en France. Les personnes, parce que pendant un moment, quand les traitements sont arrivés dans les années à la fin des années 90, il y avait cette idée que les Africains précaires ne sauraient pas bien prendre leur traitement, etc. Ça, c'est totalement faux. Les gens, quand ils se savent malades, ils savent qu'ils ont une infection, ils savent qu'il y a des traitements qui vont leur permettre d'aller mieux, ils prennent très bien leur traitement. Donc la prise en charge, elle est de qualité, et c'est vraiment une des choses qui marche le mieux quand on arrive et qu'on est en grande précarité. Au moins, le système de santé est un système qui accueille les gens et qui est protecteur. Alors après, ce qui est très important en France et ce qu'il faut absolument garder si on veut que ce système de santé continue à être protecteur, c'est l'aide médicale d'État. Alors vous savez qu'en France, on a la couverture santé habituelle, la sécurité sociale. Pour les personnes qui ont de faibles revenus, on a la couverture maladie universelle. Et pour les personnes qui sont en situation irrégulière, On a l'aide médicale d'État. Aide médicale d'État à laquelle on peut, enfin, dont on peut bénéficier dès lors qu'on peut montrer qu'on a 3 mois de présence sur le territoire français. Donc, en pratique, quelqu'un qui arrive, même s'il est en situation irrégulière, même s'il est depuis très peu de temps sur le territoire français et à qui on diagnostique un VIH, il est pris en charge gratuitement, complètement par le système de santé français. Donc le problème n'est pas la prise en charge, le problème c'est avant.
Annabelle Desgrés-Duloup, vous nous disiez 35 à 49% des migrants subsahariens contractent le virus ici en France. Est-ce que on doit peut-être utiliser des stratégies spécifiques pour ce type de cette population en particulier? On a parlé tout à l'heure avec Fred Ebocco de ce moyen de cette prévention médicamenteuse, c'est-à-dire cette idée qu'on peut effectivement protéger une personne séronégative qui court le risque de contracter le VIH pour réduire justement le risque d'infection, ce qu'on appelle la prophylaxie pré-exposition, en l'occurrence c'est un médicament qui s'appelle le Truvada, mais peu importe d'une certaine manière, est-ce que cet outil-là de la prophylaxie pré-exposition, ça pourrait être, ça devrait être un outil qu'on pourrait utiliser spécifiquement pour ce type de population, puisque visiblement le risque est particulier pour elles quand elles arrivent sur le territoire.
Alors, ça devrait, je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. On a très 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 peu d'Africains qui utilisent la PrEP dans la communauté, en dehors de la communauté des HSH, des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Donc le constat actuel, alors la première question que vous posiez, c'est est-ce qu'il faudrait mettre en place des actions spécifiques? Oui, bien sûr, parce que en santé publique, on doit se poser la question de quels sont les besoins et les possibilités et les contraintes spécifiques de chaque sous-groupe de population. Et c'est sûr que les immigrés subsahariens en France n'ont sans doute pas les mêmes besoins, pas les mêmes contraintes et pas les mêmes situations que les HSH. Et donc tout ce qu'on déploie comme campagne de prévention, campagne de sensibilisation et aussi campagne d'information sur la PrEP pour les HSH n'est pas adapté, en tout cas c'est ce qu'on observe aujourd'hui, à cette population des subsahariens, des Africains qui vivent en France. Donc la PrEP est sans doute une solution pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Et pour qu'elles rejoignent les personnes pour lesquelles ça pourrait être une solution, on a encore devant nous à déployer une communication adaptée. De la petite connaissance que je peux avoir des problèmes que rencontre cette population avec l'enquête qu'on a fait, c'est vrai que c'est très important de pas oublier que quelqu'un qui se pose des questions, qui se demande où est-ce qu'il va dormir le soir, comment est-ce qu'il va gagner suffisamment d'argent pour se nourrir. Le VIH, comme je vous le disais tout à l'heure, est en second plan. Donc, c'est très difficile de proposer à quelqu'un un médicament pour éviter d'être infecté, alors même qu'on lui propose pas un logement. Vous voyez.
Oui, bien sûr. Fred Ebocco, peut-être une toute dernière réaction. On arrive presque au terme de l'émission, en guise de conclusion.
Je voulais juste saluer le travail d'Annabelle et de France Lair dans la coordination de cette étude qui est très importante et qui met surtout en exergue l'extraordinaire vulnérabilité des femmes africaines, originaires d'Afrique subsaharienne face au VIH, en France en particulier, dans la région Île-de-France, et j'en parlais encore hier avec Annabelle, donc voilà, j'ai rien à rajouter là-dessus, sauf que je vous incite à lire le travail autour du projet Parcours.
À retrouver évidemment sur Internet. Merci beaucoup à Annabelle Desgrés-Duloup donc d'avoir été avec nous. Je rappellerai donc l'étude sur laquelle nous venons de discuter, Parcours de vie et santé des Africains immigrés en France, publié aux éditions de La Découverte d'ailleurs en 2017. Un grand merci à vous, Fred Ebocco.
C'est moi qui vous remercie.
Nous avoir éclairé sur ces politiques sanitaires en Afrique, en particulier pour lutter contre le virus. Le SIDA VIH, repenser l'action publique en Afrique, qui était paru chez Cartala, du SIDA à l'analyse de la globalisation des politiques publiques. Pour aller plus loin, pour nos éditeurs, on mettra évidemment ça en référence sur le site de France Culture. Vous voulez ajouter?
Je voulais juste vous rajouter un nom d'un chercheur que vous pourriez inviter très vite, parce qu'il est spécialiste de tous les nouveaux outils dont on a parlé, qui s'appelle Joseph Larmarange, et qui est un peu dans notre labo, notre Formule 1, en matière de tout ce qui est nouveaux outils et recherche.
On garde ce nom en tête. Voilà. Merci infiniment, Fred Ebocco. 11h53, c'est l'autre Formule. C'est Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et on parle cette semaine de l'Afrique, de l'Algérie, et l'Afrique, effectivement. La crise politique que traverse l'Algérie nous en masque une autre. Le pays connaît aussi une grave crise économique. Comment se manifeste-t-elle, Brice ?
Le problème est que l'Algérie approche dangereusement du moment où va se déclencher une crise économique sévère, une crise que même un gouvernement compétent, déterminé et jouissant de la confiance et du soutien de la population aurait des difficultés à maîtriser. Tel est l'avertissement lancé par de nombreux économistes, dont Anthony Skinner, le directeur du secteur Moyen-Orient et Afrique du Nord d'une société britannique de conseil spécialisée dans l'analyse du risque qui s'appelle Verisk Maplecroft, que je viens donc de citer. Or, ajoute ce Skinner, ces conditions n'existent pas en Algérie et il est peu probable qu'elles viennent à se matérialiser dans les temps à venir. Oui, la crise politique algérienne se double d'une crise économique dont le régime est responsable et qu'il s'est avéré incapable de combattre efficacement. La chute des prix du pétrole a provoqué chez les Algériens une prise de conscience. Le modèle économique basé sur l'utilisation par le pouvoir de la rente pétrolière et gazière pour calmer les aspirations de la population, eh bien ce modèle a atteint ses limites. Fondé sur les subventions publiques, il a été financé ces dernières années en puisant dans les réserves de change accumulées, mais celles-ci fondent à grande vitesse. De 180 milliards de dollars en 2014, il n'en reste moins que la moitié à présent, soit 67 milliards, et à ce rythme, il n'en resterait absolument rien avant 5 ans. Le régime lui-même avait pris conscience de ses problèmes, tenté des réformes, mais sans toucher au cœur du système. Entre 2014 et 2017, le Premier ministre Abdelmalek Sellal, un technocrate compétent, a initié une série d'ajustements microéconomiques pour tenter de relancer le secteur industriel algérien. Le déficit extérieur a entraîné alors une dépréciation de facto de la monnaie nationale, le dinar. Son successeur au palais du gouvernement, Abdelmajid Tebboune, un autre technocrate, annonça lui qu'il comptait s'attaquer à la corruption qui gangrène le pays. Cela lui a valu une certaine popularité dans l'opinion, mais un licenciement éclair. Avec moins de 3 mois à la tête du gouvernement algérien, il a battu le record de la plus faible longévité.
Oui, Brice, parce que le fond du problème algérien, c'est que l'économie du pays est rongée par le clientélisme.
Oui, le think tank Carnegie Endowment a récemment publié une note consacrée à la politisation du business en Algérie. Et on y apprend que le forum des chefs d'entreprise algériens, l'équivalent si vous voulez de notre MEDEF, a connu une crise interne largement antérieure aux manifestations populaires du vendredi. L'organisation patronale, sous la présidence de Ali Haddad, l'un des hommes les plus riches du pays, élu en 2014, entretenait des liens étroits avec le clan Bouteflika. Le régime accordait son soutien à ses protégés, il leur réservait les commandes publiques, il les protégeait de la concurrence étrangère par une politique stupidement protectionniste. Et en échange, ces oligarques finançaient généreusement les campagnes électorales de Bouteflika et ils enrichissaient en passant les membres de sa famille. Cette politisation d'une organisation patronale qui est censée représenter 7000 entreprises de toute taille a entraîné des débats internes assez vifs et ceux-ci se sont traduits par des démissions fracassantes parce qu'elles avaient un sens politique, en particulier celle de Issad Rebrab, le propriétaire du groupe Cevital, premier groupe privé algérien qui regroupe 26 filiales, l'un des hommes d'affaires les plus influents d'Afrique. Rebrab s'est affronté publiquement au ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouareb, et de son côté, Slim Otmani, le PDG de l'entreprise NCA Rouiba, une société importante de production de boissons à base de fruits, a démissionné de cette organisation patronale en 2014 pour protester contre sa dérive politique. Dans une interview récente aux Échos, ce même Otmani explique que la majorité des patrons algériens vivaient dans la peur et l'humiliation face à un pouvoir qui, je le cite, leur faisait croire qu'ils lui devaient même l'air qu'ils respiraient. Le clan Bouteflika contrôlait en effet l'intégralité des leviers du pouvoir. Tout se décidait, dit-il, au sommet. Je relève aussi ces deux indications essentielles pour comprendre la situation, tirée toujours de cette interview de Otmani. L'économie algérienne est dans une situation désastreuse, minimisée par les chiffres officiels. La société civile est préparée, outillée intellectuellement pour assurer une transition pacifique. Bouteflika ou le chaos, ça ne prend plus. Dernier rebondissement en date, Ali Haddad, donc qui était le président de ce forum des chefs d'entreprise, je le rappelle, a démissionné de cette présidence le 28 mars dernier, mais le lendemain à 3h du matin, il était arrêté alors qu'il tentait de passer la frontière avec la Tunisie, porteur sur lui d'une forte somme. Dans l'attente de son procès, il a été placé sous mandat de dépôt. C'est un nouveau signe de la chute de la maison Bouteflika.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.